Merci beaucoup. Donc on a entendu beaucoup de choses, hein. On a entendu effectivement tout ce qui était le partage des responsabilités entre des salariés, des bénévoles, donc un partage de gouvernance que vous avez dit au début. On a surtout entendu effectivement aussi l'histoire de la crise du bénévolat avec cette question du renouvellement, du transfert, de la transmission aussi du projet. Je vais laisser la parole à Lionel peut-être pour réagir là-dessus.
Merci. Oui, je rebondis tout de suite sur la distinction que vous avez opérée entre les grands bénévoles, si je comprends bien, donc des bénévoles sur lesquels vous pouvez compter durablement, et puis des bénévoles plus occasionnels. En effet, il me semble que lorsque on s'interroge sur les types d'engagement, et c'était un peu le thème de cette deuxième intervention. Une première distinction à faire, c'est la distinction entre bénévolat régulier et bénévolat occasionnel. Le bénévolat régulier, il inscrit ce qu'on peut véritablement appeler un engagement dans le temps. Le bénévole occasionnel, il donne un coup de main ponctuellement. Ce bénévolat occasionnel, j'ai eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises dans des initiatives de ce type, hein, ailleurs en France, de la part de militants culturels, de la part de responsables d'associations culturelles ou de membres d'associations culturelles. Ce bénévolat occasionnel, c'est un élément indispensable du modèle économique de l'association culturelle. Sans ce bénévolat occasionnel, il n'y aurait pas de festival. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, ce sont eux qui font tout, puisqu'ils n'interviennent qu'occasionnellement. Mais c'est une ressource en main-d'œuvre absolument indispensable. Je suppose que... Alors, c'est le responsable du festival, je crois que c'est la Chaise Dieu, hein, me l'avait dit. Je suppose que c'est la même chose pour la Vieille Charrue. C'est sans ces bénévoles qui sont capables de se mobiliser pendant quelques jours, même si ce ne sera qu'une fois dans l'année, le festival, il n'est pas faisable. Alors... le bénévolat occasionnel est particulièrement important dans la culture. Là encore, je suis obligé de revenir à l'enquête très riche de l'INSEE 2002. Dans la culture, il n'y avait que un tiers des bénévoles qui faisaient du bénévolat régulier. Les deux tiers ne faisaient que du bénévolat occasionnel. Et c'était un pourcentage inférieur à celui qu'on observait dans les autres domaines, même si dans le sport, il y a aussi beaucoup de bénévolat occasionnel. Pour l'enquête de 2010, elle est moins riche, elle est un peu plus confuse, je ne peux pas avoir les mêmes chiffres. Mais je me suis intéressé aux seuls adhérents des associations. Alors, c'est limité, parce que pour être bénévole dans une association, il n'y a pas besoin d'être membre de l'association. On peut être bénévole dans une association sans être membre. Ici, je m'intéresse qu'aux seuls membres. Et je regarde, hein, je fais la répartition entre participation au titre du bénévolat régulier et participation au titre du bénévolat occasionnel. Et ça me donne ça. Vous verrez que la culture est toujours dans la même couleur. Ici, j'ai la part des participations occasionnelles. Alors, participation, c'est pas bénévole. Hein. Un bénévole peut avoir plusieurs participations. Hein. La part des participations occasionnelles, il y a pratiquement les deux tiers des participations dans la culture qui sont occasionnelles. La culture n'est battue, entre guillemets, que par l'éducation, où le bénévole occasionnel est également très important. Mais vous verrez, par exemple, que dans l'action sociale, sanitaire et caritative, et ça, c'est une constante, hein, le bénévolat régulier est plus représenté, plus important. Bien. L'importance du bénévolat occasionnel est un élément qui me semble vraiment central dans le modèle économique de l'association culturelle, du moins de l'association culturelle dans le spectacle vivant. Alors, maintenant, parler des types d'engagement, c'est aussi faire référence aux motivations, comme Dan l'a évoqué tout à l'heure. Faire référence aux motivations, les motivations du bénévole. Vaste sujet, complexe, débattu. Pourquoi ? Parce que on peut évidemment se poser la question préalable, connaîtra-t-on jamais les motivations des individus ? Bon. Il y a eu pas mal de travaux de psychologues, mais dans le monde anglo-saxon, et principalement en Amérique du Nord, sur le sujet. Très peu à ma connaissance, mais Dan me corrigera peut-être. Oui, dans le monde anglo-saxon, mais très peu en France. Très peu en France. Il y a eu des travaux des économistes, mais ils sont assez frustes. Là, je me tire une balle dans le pied. Les travaux des psychologues, certains de ces travaux ont privilégié la dichotomie motivation altruiste, motivation égoïste. Mais pas mal de travaux ont montré que cette catégorisation était trop sommaire. Trop sommaire, trop réductrice. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle une approche fonctionnaliste, en matière psychologique, qui parle plutôt de six registres, six types de motivation. On pourrait y revenir dans le débat si on veut, mais on a, alors je cite simplement les registres sans les définir, le registre des valeurs, le registre du développement personnel, le registre des relations sociales, le registre de la compréhension, le registre de la protection, le bénévolat comme thérapie, ça existe, le registre de la carrière professionnelle. Sur cette question, moi je vais de nouveau me servir de l'enquête INSEE 2002. Qui posait aux bénévoles la question « Pour quelles raisons êtes-vous devenu bénévole ?» Alors, évidemment, on peut discuter de la crédibilité des réponses. On dira, les chercheurs diront « Attention, les réponses sont exposées à ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. » C'est-à-dire on a tendance à répondre ce qui est considéré comme le plus légitime socialement. Bon, c'est vrai. Donc, il faut là encore traiter ces réponses avec prudence. Mais je ne suis pas de ceux qui disent que ce que disent les acteurs doit être tenu pour quantité négligeable. Même si il faut toujours cultiver un certain recul par rapport à la parole d'acteur, il faut savoir aussi l'écouter. Bon, alors, qu'est-ce que on y voit ? L'INSEE, là, l'enquête proposait un certain nombre de raisons. Et chaque bénévole pouvait en donner une, deux, trois, quatre. Premier constat, rares sont les bénévoles. Un cinquième seulement des bénévoles ne donnent qu'une seule raison. Pluralité de raisons. Deuxième constat, grande diversité de raisons. Voilà, vous avez ici les différentes raisons. Alors, toujours là, je compare la moyenne des bénévoles avec les bénévoles culturels. Ça, c'est un travail que j'ai fait ces derniers jours. Je l'avais pas fait avant. Vous m'avez fait travailler. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des motivations qui sont plus particulièrement présentes dans la culture comparativement au reste du bénévolat. Par exemple, alors pratiquer ou enseigner, alors évidemment pas un sport. La question était la même pour tous les bénévoles. Là, c'est pas un sport, c'est une activité culturelle. On est bénévole pour pratiquer une activité, en effet. C'est pareil pour le sport. On est bénévole parce que sans don de temps, l'association ne tourne pas. Et s'il n'y a pas d'association, on ne peut pas pratiquer l'activité sportive. Tout le monde...